Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand le président chinois le plus puissant depuis Mao, dit-on, célèbre la République fondée par son illustre prédécesseur, nous serons à Pékin dans un instant pour un défilé militaire inédit par sa taille et sa technologie, assaut de puissance signé Xi Jinping. Pendant ce temps-là, Hong Kong est bouclé pour ne pas gâcher la fête. Le bruit et l'odeur à Rouen, le bruit de la rumeur inquiète des effets de l'incendie de l'usine Lubrizol. L'odeur qui plane sur la ville et ses alentours, elle n'est pas nocive, répètent les autorités. Dans ce journal, témoignage exclusif d'un ancien dirigeant de l'usine qui ne s'explique toujours pas cet incendie. À la une également des paysans cambodgiens contre Bolloré devant la justice aujourd'hui. Retour à l'école de Pantin dont la directrice s'est suicidée la semaine dernière. On entendra le désarroi des parents d'élèves. À 8h20, il nous fait l'honneur de sa verve légendaire. Grand entretien.
Avec le comédien Fabrice Lucchini, il est à l'affiche du film Alice et le maire de Nicolas Parizère qui sera en salle demain. Amis auditeurs, appelez-nous pour dialoguer avec lui dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. Les réseaux sociaux le sont toujours, ainsi que l'application mobile d'Inter.
Et nous terminerons ce journal avec un journal intime filmé par Charles Aznavour. C'est un documentaire qui sort demain au cinéma, un an après sa mort.
France Inter.
Les bottes de 15 000 soldats sur le pavé de la place Tiananmen à Pékin tout à l'heure, là où Mao proclama la République populaire de Chine. Il y a tout juste 70 ans, pour célébrer cet anniversaire, le président Xi Jinping a vu les choses en grand, à l'image de la puissance qu'il veut incarner. Bonjour Dominique André.
Bonjour Florence.
Correspondante de France Inter en Chine, vous avez assisté ce matin au plus gros défilé militaire jamais organisé dans le pays.
Les 70 ans de la République populaire, c'est d'abord cette petite fille qui chante seule au pied du monument aux morts de la nation chinoise. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, ma Chine. Puis tout de suite après, 70 salves de canons célèbrent la fondation de la République de Chine, ici même place Tiananmen, il y a 70 ans par Mao Tse-tung. Devant le président Xi Jinping, héros de la journée, habillé en costume Mao sombre, la République a exhibé ses équipements dernier cri, dont certains ont défilé pour la première fois. Missiles nucléaires intercontinentaux pouvant potentiellement atteindre les États-Unis, des centaines de chars d'assaut, chars amphibies pour intervenir au large des côtes chinoises. On a vu aussi les drones à grande vitesse de l'APL qui témoigne des progrès technologiques de l'armée chinoise. Cette démonstration de force soutient un discours ferme de Xi Jinping aujourd'hui.
Rien ne peut ébranler les fondations de notre grande nation. Rien ne peut empêcher la nation et tout le peuple chinois d'aller de l'avant.
Ce défilé gigantesque s'est terminé par un autre défilé civil avec plus de 100 000 figurants sous le drapeau rouge de la République populaire de Chine. Pékin, Dominique André, France Inter.
Des images que Pékin ne veut surtout pas voir ternies par celles de Hong Kong, secouées depuis plus de 6 mois par des manifestations contre le pouvoir chinois. Les opposants au régime ont appelé à une marche de la colère aujourd'hui. Florence de Changy, les premiers rassemblements sont en train de se former dans un centre-ville totalement bouclé ce matin.
Alors à Hong Kong, c'est le contraste absolu avec Pékin. D'une part, la ville a déserte, ville fantôme, comme ce n'est quasiment jamais le cas. Il y a beaucoup de magasins qui ont baissé leurs rideaux de fer. La plupart des centres commerciaux, qui normalement restent évidemment ouverts les jours fériés, ont fermé. Mais surtout, par anticipation de troubles, la société de métro MTR a annoncé la fermeture de nombreuses stations. Alors que le métro est évidemment le principal moyen de transport des Hongkongais, il faut dire que la police a annoncé hier une journée potentiellement très dangereuse. Malgré cela, depuis une heure ou deux, il y a déjà plusieurs dizaines de milliers de Hongkongais qui sont réunis, notamment à Causeway Bay, et malgré l'interdiction de manifester, ils ont commencé à marcher. En fait, tout le monde s'attend à des heurts violents avec la police plus tard dans la journée et sans doute dans la nuit. Mais pour le moment, les manifestations sont encore tout à fait pacifiques.
Florence de Changy à Hong Kong et Pierre Aski reviendra à la fin de ce journal sur ce 70e anniversaire de la naissance de la République populaire de Chine. Et outre le péril hongkongais, cette Chine doit aussi faire face aux pressions économiques des États-Unis qui ne sont plus du tout le sujet du moment pour Donald Trump. sous le coup d'une procédure de destitution lancée par les démocrates après un coup de téléphone à son homologue ukrainien. Le New York Times révèle un autre appel au Premier ministre australien, cette fois dans lequel il lui aurait demandé de l'aide pour discréditer l'enquête du procureur Mueller sur ses collusions avec la Russie. Trump a tweeté toute la journée hier contre les démocrates. Un sondage donne 47% des Américains favorables à sa destitution.
Il est 8h05 à Rouen, Florence. Toujours autant de questions en suspens. 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol.
Pourquoi ces odeurs nauséabondes? Elles ne sont pas nocives, a dit le Premier ministre Édouard Philippe sur place hier soir. On y reviendra. Pourquoi cet incendie? La direction de l'usine a porté plainte, persuadée que le feu est parti à l'extérieur du site. Et c'est un témoignage exclusif que nous allons vous faire entendre, celui de l'ancien directeur général adjoint de l'entreprise, Gérard Prieur, 77 ans. Il a participé dans les années 80 à la conception des hangars de stockage qui ont brûlé. Il a géré la sécurité du site. Il ne s'explique pas, Thibault Lefebvre, ce qui a pu se passer dans la nuit de mercredi à jeudi dernier.
Dès qu'il prend connaissance de l'incendie, Gérard Prieur élimine l'hypothèse d'une explosion accidentelle à l'intérieur de l'usine.
Statistiquement, c'est pas possible.
Car il existe en France au moins une centaine de hangars de stockage de produits inflammables qui sont, comme ceux de Lubrizol, très bien protégés. Et jamais dans l'histoire industrielle récente, un système anti-incendie de type sprinkler n'a failli.
C'est un système automatique. À partir du moment où il y a une certaine chaleur à l'intérieur du bâtiment, il y a un déluge d'eau qui s'abat sur la zone qui est la plus chaude. Ça a dû se passer à l'extérieur du bâtiment. C'est ça qu'il faut arriver à déterminer.
L'ancien ingénieur continue alors son enquête. Elle se poursuit dès le lendemain de la catastrophe sur Internet et notamment sur YouTube.
Il y a quelque chose qui m'a particulièrement étonné. C'est une vidéo qui montre 3 explosions successives. C'est ce qui se passe quand vous avez un hydrocarbure et de l'air. Ça peut être un camion citerne sous lequel on fait un feu, par exemple. Vous obtiendrez un truc comme ça. Nous sommes sur l'hypothèse de quelque chose que, personnellement, je ne comprends pas.
Gérard Prieur n'est pas le seul à être déboussolé. Dans le plan de prévention des risques technologiques de Lubrizol approuvé il y a 5 ans, l'hypothèse d'un incendie sur les hangars de stockage a été qualifiée, je cite, d'extrêmement improbable.
Et en attendant de comprendre ce qui s'est passé jeudi dernier, la population de l'agglomération rouennaise voudrait comprendre pourquoi certains ont toujours des nausées et des maux de tête. Hier, on a vu des profs faire usage de leur droit de retrait dans 3 collèges de l'agglomération. Une centaine de conducteurs de bus sont en arrêt maladie après avoir été incommodés. Et tout le monde ressent ces odeurs qui piquent la gorge malgré leur innocuité, répètent les autorités. Le préfet de Normandie, devant les élus de la métropole hier soir, espère que ça va s'arranger dans les jours qui viennent.
Ce qui continue de poser problème, c'est le sujet de l'odeur. C'est un élément anxiogène. C'est la raison pour laquelle, au-delà d'avoir évidemment suspendu l'activité du site, nous avons pris des mesures en imposant très très vite à l'exploitant de traiter, de pomper un certain nombre d'effluents qui demeurent et dont on pense qu'ils sont très largement à l'origine de cette odeur. Je pense que ce sera fait, enfin, pour une partie d'entre eux avant la fin de la semaine.
Pierre-André Durand, préfet de la Seine-Maritime, avec Benjamin Illy. D'ici la fin de la semaine, associations, ONG et syndicats appellent d'ores et déjà à manifester devant le palais de justice de Rouen à 18h pour obtenir la vérité sur les conséquences de l'incendie. Et puis aux agriculteurs dont la production est gelée à cause des retombées de suie, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, promet une indemnisation total. Un nouveau FLNC en Corse. 5 personnes cagoulées dans un sous-bois ont donné une conférence de presse clandestine dans un contexte de retour de la violence sur l'île. Ce FLNC pour l'indépendance prône l'interdiction des achats immobiliers aux non-Corses et le remplacement de tous les étrangers par des Corses dans les emplois.
Il est 8h09, Florence. De petits paysans cambodgiens contre Bolloré, aujourd'hui au tribunal de Nanterre.
Ils sont une dizaine à avoir fait le voyage sur 80 plaignants qui dénoncent l'exploitation de leurs terres ancestrales par des producteurs d'EVA, dont l'un des principaux actionnaires, Emmanuel Leclerc, serait le groupe français Bolloré.
Son pro est l'une de ces paysannes cambodgiennes qui accusent aujourd'hui le groupe Bolloré d'être derrière la spoliation de leurs forêts ancestrales pour pouvoir planter des EVA.
Je suis venue parce que j'ai perdu mes terres, parce qu'on a bafoué nos droits et détruit nos vies. Je suis venue pour obtenir la justice. Depuis que l'entreprise est arrivée, il nous faut aller beaucoup plus loin pour trouver des champs pour cultiver. des arbres pour cueillir de quoi subsister. Et les chemins sont dangereux. Les femmes ne sont pas en sécurité. Alors, nous restons au village.
Et l'entreprise qui exploite les plantations d'EVA au Cambodge est soupçonnée d'être gérée en réalité depuis Paris par le groupe Bolloré. Mais il manque des preuves, d'où ce premier procès pour pouvoir obtenir certains documents essentiels. Maître Fiodor Rilov est l'avocat des paysans cambodgiens.
Il y a tout un ensemble d'indices qui nous permettent de considérer que cette structure servait de véhicule au groupe Bolloré pour décider de ce qui se passait dans les plantations au Cambodge et au Cameroun, engendrant des dommages absolument inacceptable, scandaleux, au détriment de ces personnes. Donc toute la bataille maintenant est de récupérer davantage d'éléments, de documents pour consolider cette démonstration.
200 paysans camerounais devraient prochainement se joindre à cette procédure contre le groupe Bolloré à cause de plantations, là encore, d'EVA en Afrique.
Et les avocats du groupe Bolloré n'ont pas souhaité répondre à France Inter. Les effets ravageurs de la faillite de Thomas Cook, 500 hôtels et logements vont devoir fermer immédiatement en Espagne, selon la Confédération locale du tourisme. Le voyagiste assurait leur remplissage, surtout aux Canaries et aux Baléares. Il leur laisse en plus une facture de 200 millions d'euros d'impayés. Quand Air France se met au vert et le fait savoir, la compagnie prévoit de compenser toutes les émissions de CO2 de ses 500 vols intérieurs quotidiens à partir de l'an prochain en finançant des plantations d'arbres ou des projets de protection de l'environnement. Air France promet aussi de supprimer tous les plastiques à usage unique à bord de ses avions à partir de janvier et de commencer à trier et recycler les déchets dès ce mois d'octobre.
De retour à Pantin maintenant.
Une semaine après le suicide de la directrice d'une école maternelle retrouvée dans le hall de l'établissement. Elle s'appelait Christine Renon, elle avait 58 ans. Elle avait écrit sa charge et sa solitude professionnelle dans une longue lettre envoyée à ses collègues qui appellent à la grève jeudi dans toute la Seine-Saint-Denis. Mathilde Dehimi, là-bas, l'émotion ne retombe pas.
Des parents ont ressorti des photos de classe, tout sourire, d'autres les petites blagues par SMS que Christine Renon envoyait régulièrement.
Généreuse, gentille, solaire.
Se souvient Catherine, ancienne parent d'élève, restée en contact avec la directrice.
Pas Christine, pas elle. Je pense qu'on a vraiment une machine à broyer, une souffrance au travail qu'il faut entendre. Parce que pour abattre quelqu'un comme ça, c'est qu'il faut sacrément savonner la planche.
Dans sa lettre, Christine Renon raconte la lourdeur du quotidien, l'absence de soutien hiérarchique, les réformes qui s'enchaînent et le manque d'écoute de la mairie sur les rythmes scolaires. Une lettre reçue par cette autre directrice, Sabine Duran.
On est dans une perte de sens de notre métier. Il y a beaucoup de tâches qui prennent le pas sur l'aspect pédagogique, notamment tout l'aspect administratif. Rien n'excuse le fait qu'on puisse mourir sur son lieu de travail et à cause de ses conditions de travail.
Les parents d'élèves sont désemparés. L'école maternelle a rouvert avec une cellule d'écoute, mais sans mot ni conseil sur comment annoncer la nouvelle aux enfants, regrette Carole qui a choisi de le dire à sa fille.
Je savais qu'on n'en avait pas parlé aux enfants, je savais qu'on n'avait pas fait d'annonce aux familles, donc j'avais ce sentiment un peu que tout commençait à être mis un peu sous le tapis, qu'il y avait ce silence. Et cette école, il va falloir qu'elle redevienne une école, donc qu'on y retrouve de la joie d'y aller. Pour ça, il va falloir qu'on mette des mots d'abord.
Les enseignants sont appelés à cesser le travail jeudi, le jour des obsèques de Christine Renon.
Mathilde Dehimi. Et si la viande rouge et la charcuterie n'étaient pas si mauvaises que ça pour la santé? C'est la conclusion à rebours des préconisations de chercheurs de 7 pays qui ont réexaminé des dizaines d'études pour affirmer que le risque potentiel est faible et les preuves incertaines, et conseillé dans une grande revue scientifique de continuer à consommer de la viande rouge 3 à 4 fois par semaine, idem pour la charcuterie, alors que de nombreux pays, dont la France, recommandent d'en manger beaucoup moins. Leurs conclusions font déjà débat chez les experts en nutrition et en santé publique. C'est la tannée des rentrées scolaires, les certificats médicaux pour les activités sportives des enfants bientôt plus nécessaires. C'est dans le budget 2020 de la Sécu, une simple attestation remplie par les parents suffira.
À chaque fois que j'entends votre voix, cela soigne mon âme, disait Toni Morrison, prix Nobel de littérature.
Cette voix, c'était celle de Jessie Norman, morte d'une septicémie cette nuit à 74 ans. Une voix soprano, l'une des plus grandes de ces 50 dernières années, selon le Metropolitan Opera de New York. Et l'on retiendra en France cette image de l'immense cantatrice américaine, drapée de bleu, blanc, rouge, au pied de l'obélisque de la place de la Concorde à Paris, pour cette inoubliable Marseillaise du bicentenaire de la Révolution, c'était en 1989. Autre voix qui s'est éteinte il y a un an, celle de Charles Aznavour. Mais c'est son œil qui nous intéresse aujourd'hui, son œil de réalisateur. Il a tourné des heures d'images, figurez-vous, tout au long de sa carrière, monté après sa mort. Cela donne le regard de Charles au cinéma demain. Un documentaire comme un journal intime, Corinne Pellissier.
J'ai filmé partout, tout le temps.
Édith Piaf aura décidément toujours perçu ses qualités avant les autres.
Super 8,
en 16 mm.
Y compris lorsqu'elle lui offre en 1948 sa toute première caméra. Il l'emmènera partout, à New York, à Tokyo, à Dakar ou Erevan, révélant de véritables talents de réalisateur.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps. Et jouer de la vie.
Charles Aznavour à la première personne comme on ne l'a jamais vu. En tournée, en voyage, sur les plateaux de cinéma, documentant tous les moments de sa vie, des images, des textes, une voix, celle ici pour l'incarner de Romain Duris, comme une évidence pour le fils du chanteur, Micha Aznavour, et son complice, Marc Di Domenico, réalisateur du documentaire et ami de la famille.
J'ai senti qu'il avait cette énergie un peu spontanée. Voilà, il me fait penser à lui en fait.
Parfois le présent vous cingle le visage. Il n'a pas le temps de se transformer en mots ou en musique.
C'est vraiment le regard de Charles. J'ai eu la chance qu'il soit encore là quand j'ai commencé à voir les images. Alors, on n'a pas tout regardé parce que c'était 40 heures. Mais moi, il y avait des séquences déjà que j'avais isolées. Quand on est à Montmartre et qu'il filme la petite chambre où il était, et on peut pas ne pas mettre la bohème.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Un documentaire rempli de tubes et d'anecdotes qui séduira autant les fans que les curieux.
Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème.
Il y a un cœur Marie-Pierre Planchon.
La bohème.
Florence Paracuelos. Merci Florence pour le journal.